Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde. Ce soir pour la rédaction russe, Anya Stroganova.
Dobrый вечер.
Pour la fête du football qui ne ternira malheureusement pas le fait qu'en Russie les droits de l'homme sont bafoués. Ermi Roumilak de la rédaction chinoise.
Ira.
Car les États-Unis ont inauguré mardi leur nouvelle représentation diplomatique à Taïwan. Et Laura Martel de la rédaction en anglais.
Good evening.
Pour le procès d'un ex-ministre de Charles Taylor, l'ancien homme fort du Liberia. Bonsoir à vous toutes. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir l'errance de l'Aquarius. Ce bateau chargé de migrants, une errance révélateur des divisions européennes. Laura, à la rédaction anglophone, vous vous êtes intéressée aux tensions que l'accueil de ces migrants de l'Aquarius suscite au sein de l'Union européenne.
Oui, parce que rappelons que si l'Aquarius fait route vers l'Espagne, c'est que l'Italie et Malte ont refusé de l'accueillir. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, dont le parti La Liga a affiché une politique clairement anti-immigration, avait notamment tweeté « Sauver des vies est un devoir, mais transformer l'Italie en camp des réfugiés, pas question ». Or, ces dernières années, l'Italie a de nombreuses reprises accusé les autres pays européens de la laisser seule avec la Grèce à gérer cet afflux d'immigrés. Salvini critique aussi depuis longtemps les ONG qui viennent secourir les migrants en mer, les accusant de créer un appel d'air. L'Italien s'est donc tourné vers Malte, qui là aussi a refusé, sur fond d'une bataille plutôt cynique entre les deux pays pour savoir de quelle zone nationale le bateau était le plus proche. Et finalement, c'est donc l'Espagne qui a accepté de réceptionner les migrants.
Alors, le refus du gouvernement italien a été diversement accueilli en Europe. Hein. Vous l'avez noté, ça?
Oui, la Hongrie, la Slovaquie, par exemple, partisans d'une ligne dure anti-immigration, ont soutenu la position italienne. En Allemagne, la ligne de fraction traverse désormais la coalition d'Angela Merkel, avec notamment son ministre de l'Intérieur, qui conteste ouvertement sa politique d'accueil. De son côté, Paris a été particulièrement critique. Emmanuel Macron a dénoncé l'irresponsabilité du gouvernement italien. Sauf que cette sortie, eh bien, elle-même a suscité la controverse, d'autant qu'il faut le souligner, Paris était resté particulièrement muette jusqu'à ce que l'Espagne se dévoue. Critique donc de ses propos dans l'opposition. Martine Aubry du Parti Socialiste a rappelé aujourd'hui que la France avait dit qu'elle prendrait 30 000 réfugiés, mais finalement elle n'a même pas pris ces 30 000 réfugiés, donc pourquoi donner des leçons aux Italiens? Critique au sein même du parti du président Macron, avec la députée Sonia Crimi notamment, qui a accusé l'Élysée de faire la politique de l'autruche. Et puis surtout, donc, mini-crise politique entre Paris et Rome. Rome qui a accusé Macron d'hypocrisie, de cynisme, convoqué l'ambassadeur français jusqu'à ce que finalement aujourd'hui le chef du gouvernement italien soit reçu à l'Élysée pour apaiser les tensions.
Anya Stroganova, en Russie, cette crise fait la une des journaux.
C'est cela, Philippe. L'Italie et la France au bord de la crise diplomatique à cause des migrants, scandale au sein de l'Union européenne. Situation tendue, c'est à peu près ainsi que les médias russes ont commenté cette semaine la situation avec le navire humanitaire Aquarius. Pour les chaînes de télé fédérales russes, un tel sujet est une aubaine. Depuis le début de la crise migratoire en Europe, on noircit le tableau en insistant sur le chaos qui règne désormais au sein de l'Union européenne. Envahi par les migrants. La télé russe parle des migrants violeurs, agresseurs, ingérables. Le calcul est simple. On montre aux Russes une Europe déstabilisée, fragilisée. Et à côté de cela, les problèmes antérieurs doivent paraître moins importants. On est rassuré. Tout va si mal en Europe, alors qu'ici, en Russie, c'est stable.
Laura Martel, je reviens vers vous. Tout cela souligne le manque d'unité des pays de l'Union européenne sur la politique migratoire.
Oui, les ministres italiens, autrichiens et allemands de l'intérieur ont déjà déclaré vouloir établir un axe des volontaires pour s'attaquer à l'immigration clandestine. La Hongrie, République tchèque, Pologne, Slovaquie, elles s'opposent à toute idée de quota de répartition de migrants entre pays européens. En Allemagne comme en France, on le disait, des divisions internes brouillent les positions. Tandis que de son côté, le chef du gouvernement espagnol est apparu plutôt isolé. Pedro Sanchez qui a prôné une nouvelle Europe où les égoïsmes nationaux ne prévaudront pas. Et puis lundi à Strasbourg, on l'a vu, les parlementaires européens, le débat était houleux. Ils ont tous en tout cas regretté le manque de solidarité à l'écart des pays européens qui sont en première ligne. Et ils ont dénoncé le blocage persistant sur la réforme des règles européennes en matière d'asile. Autant de questions qui seront au cœur du Conseil européen qui doit se tenir les 28 et 29 juin prochains.
Anya, la Russie de son côté, est-ce qu'elle accueille des migrants ?
En fait, malgré son alliance avec le régime syrien, la Russie n'accueille presque pas de réfugiés syriens. Selon les chiffres de l'ONU, la Russie a légalisé en 2016 quatre fois moins de réfugiés que Malte, l'un des pays les plus petits de l'Union européenne. La Russie a légalisé 39 réfugiés. Au 1er janvier 2017, il n'y avait en Russie que moins de 600 détenteurs du statut d'asile, mais on compte à peu près 230 000 personnes avec un statut de réfugié temporaire, dont 99% sont des Ukrainiens.
Des Ukrainiens. Un statut de réfugié temporaire, dites-vous, ça veut dire quoi très concrètement ?
C'est en quelque sorte une version allégée d'un statut de réfugié normal. Ce statut est octroyé pour un an maximum et au-delà de cette date, il peut très facilement ne pas être prolongé. En outre, en ce qui concerne les aides sociales, ça permet à l'État russe d'en diminuer une grosse partie par rapport à un statut de réfugié normal. Les ONG russes qui sont spécialisées en question de migration expliquent que la situation avec l'accueil des réfugiés en Russie est aujourd'hui catastrophique et ne fait que s'empirer. Mais à côté de ces chiffres dérisoires, les médias officiels se vantent d'aider l'Europe à surmonter la crise migratoire. La Russie sauve encore une fois l'Europe d'une nouvelle vague migratoire, titré par exemple le site d'information Sputnik en février 2017.
Voilà ce qu'on peut dire donc sur cette crise migratoire qui dure mois après mois. Regardons dans le passé, Rémine Roumilac, la Chine, elle, a été confrontée à peu près à la même chose.
Oui, c'est pas besoin de remonter très loin dans l'histoire. De 1933 à 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc la ville de Shanghai a pu protéger près de 30 000 Juifs venant de l'Europe. Et en 1979, les 300 000 réfugiés vietnamiens chassés par la vague anti-chinoise, d'ailleurs, ont retrouvé refuge en Chine. Et plus récemment, quand les conflits internes de la Birmanie ont obligé des milliers de Birmans à traverser la frontière, la Chine ne les a pas refoulés. Ils ont été, par contre, envoyés chez eux une fois les conflits terminés. Donc, face à cette nouvelle crise migratoire dont on parle aujourd'hui, des voix se sont élevées pour demander à la Chine d'assumer un peu sa responsabilité internationale, c'est-à-dire accueillir des réfugiés, mais l'opinion publique est majoritairement contre cela.
Et l'ONU s'exprime, bien évidemment, sur tout cela.
Oui, l'ONU a publié une vidéo intitulé « Nous sommes solidaires avec les réfugiés » l'année dernière sur son compte officiel Weibo, équivalent de Facebook en Chine, appelant le public chinois à accepter plus d'attention à cette question. Mais la vidéo a créé un certain émoi et des vives discussions sur ce sujet dans l'opinion publique. Ils craignent que la Chine allait ouvrir la porte aux réfugiés. Et donc, en fait, le public chinois soutient et généralement que la Chine ne peut pas accepter un grand nombre de réfugiés actuellement pour des raisons économiques, sociales, culturelles, mais aussi ethnique et religieuse.
Cela dit, la Chine, deuxième puissance mondiale, accueille des réfugiés. En tout cas, c'est un nouvel Eldorado pour beaucoup d'Africains.
Oui, la Chine est aussi le premier partenaire commerce de l'Afrique. Entre 300 000 et 400 000 migrants africains vivent aujourd'hui en Chine. Et la plupart des temps, ils vivent dans les grandes villes dans le sud de la Chine. Et la grande majorité de ces clans vivent dans la clandestinité. Donc leur rêve d'Eldorado est vite devenu un cauchemar pour la plupart des gens.
Comment est-ce qu'ils vivent en Chine? Vous nous le dites finalement très mal, c'est ça?
Ils vivent plusieurs reportages sites dans le quartier baptisé Chocolate City, dans la grande ville de Canton.
La ville du chocolat.
Oui, la ville de chocolat, parce que...
C'est une connotation raciste,
ouais,
finalement.
Voilà. Donc, voilà, le raciste, c'est souvent cité par les migrants africains en Chine. La discrimination, les difficultés d'intégrer en Chine sont plutôt des problèmes avec le contrôle multiple de la police que les migrants africains rencontrent quotidiennement en Chine.
Voilà, donc des Africains qui vivent en Chine, sachant que la Chine est devenue l'un des principaux investisseurs en Afrique. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 degrés à Paris.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. À Moscou, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football donné dans une ambiance festive, mais cela ne doit pas éclipser la situation des droits de l'homme dans un pays plus que jamais isolé sur la scène internationale sur ces questions. Agnia Stroganova de la rédaction russe, quelles affaires précisément ternissent l'image de la Russie ?
Ah, elles sont nombreuses ces affaires et on n'aura sûrement pas le temps de les énumérer toutes. L'une des affaires les plus préoccupantes actuellement, c'est le cas du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov qui continue sa grève de la faim dans une colonie pénitentiaire en Sibérie. Je rappelle qu'il purge une peine de 20 ans pour terrorisme. Sa grève de la faim, il a commencé le 14 mai dernier. Il est donc à son 32e jour de grève et sa santé se détériore sérieusement. Sentsov n'exige pas sa propre libération, mais celle des prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie. Jeudi, le Parlement européen a demandé à la Russie la libération inconditionnelle du cinéaste. Un autre 38 pays, dont la France, ont appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à évoquer avec Poutine le sort des prisonniers ukrainiens et bien sûr le cas de Oleg Sentsov.
Et jeudi, le jour même de l'ouverture du mondial, on apprenait que le procès de l'historien et défenseur des droits de l'homme russe Yuri Dmitriev allait reprendre.
Oui, encore une affaire emblématique qui ternit un peu le début de cette Coupe du Monde. Hier, en pleine ouverture du mondial, la Cour suprême de Karélie, donc dans le nord de la Russie, a cassé le jugement innocentant Dmitriev. Yuri Dmitriev, c'est un historien spécialiste des crimes staliniens. Il a déterré des corps des victimes de la Grande Terreur et a découvert l'un des plus grands charniers dans le nord russe. Il dirige également l'antenne de l'ONG Mémorial, l'une des ONG les plus importantes en Russie. Et donc, il y a à peu près un an et demi, on l'a accusé de pédophilie, notamment d'avoir réalisé des photos pornographiques de sa fille adoptive. Il a toujours démenti. Il a été acquitté en avril dernier. C'est une chose rarissime dans la justice russe, mais l'affaire était apparemment montée de toutes pièces. Or, hier, on a su qu'il y aura un nouveau procès et en l'attendant, Yuri Dmitriev est assigné à résidence chez lui.
Et puis en France, les Reporters sans frontières, l'association Reporters sans frontières, a voulu attirer l'attention sur la répression qui continue donc en Russie pendant cette Coupe du Monde.
Oui, la répression des journalistes et à la veille donc de l'ouverture du mondial, RSF a installé un plan Paris sur la place de la République en terrain de foot symbolique sur lesquels étaient brandis les photos de 7 journalistes russes emprisonnés en Russie. Le message que l'ONG voulait passer, la Coupe du Monde de football ne doit pas nous faire oublier le match inégal entre le pouvoir russe et les médias indépendants. Je rappelle que la Russie occupe la 148e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Et pour avoir une information libre concernant la Russie, le site internet de RFI en russe. Dont Anya Stroganova était la représentante ce soir. Dans l'actualité du monde, il y a aussi ce procès qui a débuté cette semaine à Philadelphie, aux États-Unis. Le procès d'un Libérien, ancien ministre de la Défense, de l'ex-président Charles Taylor. Laura Martel, pour quelle charge est-il poursuivi cet homme ?
Eh bien, sur le papier, Thomas Weyou est poursuivi pour avoir menti à l'administration américaine. Mais en fait, en toile de fond de ce procès, c'est son implication présumée dans des atrocités commises durant la première guerre civile au Libéria entre 1989 et 1997 qui est en cause. En fait, Weyou est accusé de fraude et de parjure quand il a demandé la nationalité américaine en 2006 car il n'aurait pas dévoilé donc son rôle dans des mouvements rebelles, mouvement accusé donc de crimes de guerre, et en particulier le NPFL, le National Patriotic Front of Liberia, un mouvement qui était dirigé par celui qui deviendra le président Charles Taylor. Et donc j'ai parlé à Hassan Biliti, qui est le président de l'ONG libérienne, Global Justice and Research Project, et il explique pourquoi Weyou est poursuivi pour des questions administratives et non pas donc pour crimes de guerre.
Committing war crimes of murder and torture became criminalized in the United States in 1996.
Alors que vous a dit Hassan Biliti ?
Il dit en fait que les tortures et les crimes de guerre sont devenus punissables par les États-Unis à partir de 94 et 96. Or, la plupart des crimes en question ont été commis avant 94 et on le sait, les lois ne sont pas rétroactives, mais bien sûr, souligne-t-il, les accusations relatives aux crimes de guerre sont utilisées pour prouver qu'il a menti justement aux autorités américaines.
Alors parmi ces crimes présumés, il y a une certaine opération Octopus De quoi s'agit-il ?
Eh ben, c'est une opération militaire qui avait été lancée par le NPFL de Charles Taylor en octobre 1992. Son objectif, prendre Monrovia, la capitale bien sûr du Libéria, et faire tomber le gouvernement de Samuel Doe malgré la présence de casques bleus ouest-africains à l'époque. Une opération de 120 jours particulièrement sanglante, nous raconte Hassan Biliti.
The NPFL committed a lot of violations, among which murders, killing people based on...
Alors le NPFL a commis de nombreuses violations des droits de l'homme, des meurtres qui ciblaient certaines ethnies, des bombardements indiscriminés de civils, dit-il. Du coup, des centaines de personnes ont été tuées, dont des casques bleus. Et au cours de cette même opération, rappelle-t-il, 5 bonnes sœurs américaines ont été kidnappés et tués vraisemblablement par le National Patriotic Front. Thomas Woweyu, en tant que ministre de la Défense et porte-parole de ce mouvement, a donc été impliqué à la fois dans la planification et dans l'exécution de cette opération, et, nous dit le militant.
Et oui, il dit aussi que même si Woweyu n'est condamné que pour des questions administratives, eh bien le simple fait de pouvoir témoigner devant la justice représente déjà énormément pour les victimes.
Oui, d'autant qu'il n'y a jamais eu aucun procès sur ces crimes de la guerre civile au Libéria même, jamais une procédure, jamais de poursuite. Et en plus, finalement, les Américains qui ne rigolent pas avec le mensonge à l'administration pourraient le condamner lourdement. Il risque jusqu'à 110 ans de prison et 4 millions de dollars d'amende.
Laura Martel, de la rédaction en anglais de RFI. Quant à la rédaction chinoise, elle s'est intéressée à un événement qui est quasiment passé inaperçu à cause de ce sommet historique, hein, Kim-Trump. Le fait que les États-Unis ont inauguré, c'était mardi, leur nouvelle représentation diplomatique à Taïwan. Hermine Rumila, quelle est l'importance de cette nouvelle diplomatique, l'American Institute in Taiwan, qui a donc été créée et ouverte cette semaine?
Oui, American Institute in Taiwan, c'est AIT, donc c'est la représentation diplomatique des États-Unis et de fait son ambassade à Taïwan sans le vrai nom. Son nouvel bâtiment est inauguré en présence de la vice-secrétaire d'État américain chargée d'affaires culturelles, Madame Royce. Elle était à côté de la présidente de Taïwan, Madame Tsai Ing-wen. Cela souligne le rapprochement entre Washington et Taïwan alors que les relations entre l'île nationaliste de Taïwan et la Chine communiste se tendent actuellement. En fait, depuis l'élection de l'actuelle présidente de Taïwan, Madame Tsai, la Chine regarde d'un œil très méfiant sur l'île, craignant son indépendance qui fait éloigner l'espoir tellement espéré de unifier les deux côtés de détroit de Taïwan. Et c'est pour cette raison que les pressions venant de Pékin dans les domaines économiques, politiques ou diplomatiques sont de plus en plus présentes pour Taipei. Pas plus loin que le mois dernier, deux de ses alliés en Afrique l'ont abandonné pour se retrouver vers la Chine populaire. Et cette guerre diplomatique n'est loin d'être finie, on dirait. Et en ce moment très difficile, le renforcement de la présence des États-Unis à travers ce nouveau bâtiment est plus que jamais réconfortant pour le gouvernement de Taïwan.
Un nouveau bâtiment dans tous les sens du terme. Physiquement, il est imposant, cette ambassade, on va dire.
Il est très grand. C'est un bâtiment moderne de 15 000 mètres carrés, construit sur un terrain de 6,5 hectares, loué pour 99 ans. Il est devenu par taille l'une des plus importantes ambassades de Washington en Asie.
Asie-Pacifique,
pardon. Ensuite, très symboliquement, je disais que le vice-secrétaire d'État américain, Madame Royce, s'est rendue personnellement à Taipei pour la cérémonie d'inauguration. Elle s'est posée en souriant à côté de la présidente de Taïwan. Donc, ceci est contesté, bien sûr, vigoureusement par la Chine. Tous ces détails montrent que Taïwan occupe désormais une place très importante dans la stratégie géopolitique de Washington en Asie orientale.
Et comment expliquer ce soudain rapprochement entre Washington et Taïwan ?
Parce que tout simplement, ça va très mal avec la Chine. Notre correspondant à Taïwan, M. Chen Mingfeng, dans son chronique hebdomadaire, a donné quelques explications. Il a dit que selon le vice-ministre de la Défense de Taïwan, le nouveau local de représentation des États-Unis va renforcer les relations. Et en fait, depuis les élections de M. Trump, les États-Unis n'hésitent pas à utiliser la carte Taïwan pour provoquer et contraindre la Chine. Et tout cela est sans doute pour avoir un intérêt économique au retour pour les États-Unis.
Et bien évidemment, ce qui se passe à Taïwan, vous l'avez bien dit, ça change. Ce sont des États africains qui se retirent, ce sont les États-Unis qui s'installent. Oui. Tout cela est très mouvant et bien évidemment la rédaction chinoise de RFI suit tout cela de très près pour nous. Merci à vous toutes pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité.